Chapitre 10 contenant une ou deux réflexions sur la vertu et quelques-unes de plus sur le soupçon. Notre compagnie, à son arrivée à Londres, descendit à l'hôtel de Milord. Pendant qu'elle se reposait de la fatigue du voyage, il ordonna à ses domestiques d'aller à la recherche d'un logement pour les deux jeunes dames, car Milady n'étant point en ville, Mrs. Fitzpatrick ne voulut pas absolument consentir à accepter un lit dans l'hôtel. Quelques lecteurs condamneront peut-être cette délicatesse extraordinaire, si j'ose le dire, comme l'excès d'une vertu trop circonspecte et trop scrupuleuse. Mais nous devons accorder quelque indulgence à sa situation, qui, nous sommes forcés de l'avouer, était extrêmement délicate. Et quand on réfléchit à la malice des langues médisantes, on doit convenir que si elle commit une faute, cette faute était honorable, et telle que toute femme dans la même situation fera bien de l'imiter. Les plus brillantes apparences de vertu, lorsqu'elles ne sont que des apparences, pourront peut-être paraître moins recommandables que la vertu elle-même, dénuée de ses apparences. Mais cependant, elles seront plus généralement approuvées, et tout le monde m'accordera, je crois, qu'excepté dans quelques cas particuliers, les femmes ne doivent pas plus négliger les apparences de la vertu que la vertu elle-même. Un logement s'étant trouvé tout près, Sophie accompagna sa cousine pour cette nuit. Mais elle était résolue de s'informer dès le lendemain matin, en se levant, où logeait la dame sous la protection de laquelle, comme nous l'avons dit précédemment, elle avait eu le projet de se mettre, lorsqu'elle quitta la maison de son père. Son empressement à remplir ce devoir s'était encore accru à la suite de quelques observations qu'elle avait faites dans la voiture pendant son voyage. Comme nous ne voudrions en aucune manière avilir le caractère de Sophie, en la peignant sous les traits odieux d'une personne soupçonneuse, nous sommes presque effrayés de l'obligation où nous nous trouvons de découvrir à nos lecteurs les pensées qui remplissaient son esprit relativement à Mrs. Fitzpatrick, sur le compte de laquelle elle avait alors très certainement des soupçons. Mais comme ils sont de la nature de ceux qui entrent très facilement dans l'esprit des hommes les plus malveillants, nous ne croyons pas devoir nous expliquer plus clairement à cet égard avant d'avoir dit un mot ou deux à nos lecteurs touchant le soupçon en général. Il m'a toujours semblé qu'il y en avait de deux espèces distinctes. Je fais dériver la première du cœur, l'extrême rapidité de son discernement paraissant dénoter quelque impulsion intérieure qui la précède. Et ce qui me le confirme, c'est qu'elle crée souvent son propre objet, voit ce qui n'est pas, et dans ce qui est, toujours plus qu'il n'y a réellement. C'est cette pénétration également profonde et rapide à laquelle la plus légère apparence de mal ne peut échapper, qui observe non seulement les actions, mais les paroles et les regards des hommes. Comme elle sort du fond du cœur de l'observateur, elle s'introduit sans résistance dans le cœur de celui qu'elle observe, elle y épie le mal lorsqu'il n'y est pas encore développé. Faculté admirable, si elle était infaillible. Mais comme il n'y a sur terre qu'un seul mortel qui ait osé prétendre à ce degré de perfection, l'incertitude d'un discernement aussi subtil a amené mille malheurs affreux et les plus cruelles persécutions pour l'innocence et pour la vertu. Je ne peux donc m'empêcher de regarder ce rapide et profond aperçu du mal comme un excès et un mal très pernicieux lui-même. Et je penche d'autant plus vers cette opinion que, pour les raisons que je viens d'énoncer, j'ai tout lieu de craindre qu'une si vaste pénétration ne provienne d'un mauvais cœur. Je pourrais ajouter encore une autre raison, c'est que je ne me suis jamais aperçu que les bons cœurs possédassent cette faculté. En conséquence, j'acquitte absolument Sophie de cette première espèce de soupçon. La seconde espèce me paraît dérivée de la tête. Elle n'est autre chose en effet que la faculté de voir ce qui est sous nos yeux et d'en tirer les conséquences. Double faculté que possède nécessairement quiconque a des yeux et du bon sens. Elle est aussi ennemie du crime que l'autre l'est de l'innocence. Et je ne peux l'envisager sous un jour défavorable, quoiqu'elle puisse se tromper quelquefois, car l'infaillibilité n'est pas donnée à la nature humaine. Par exemple, si un mari surprenait sa femme sur les genoux ou dans les bras de quelques-uns de ces jolis messieurs qui professent l'art de la galanterie, je ne crois pas que je le blâmasse beaucoup de conclure quelque chose de plus d'après les familiarités dont il aurait été le témoin. Familiarité qu'on traite sans doute avec trop d'indulgence en les appelant des libertés innocentes. Le lecteur n'aura pas de peine à se rappeler un grand nombre d'exemples de ce genre. Je n'en ajouterai qu'un que quelques personnes pourront juger contraire à la morale chrétienne et que je ne puis m'empêcher de croire facile à justifier. C'est le soupçon qu'un homme est capable de faire ce qu'il a déjà fait. S'il faut dire la vérité, je crois que Sophie était coupable de cette espèce de soupçon, et d'après cela, elle avait en effet conçu l'opinion que sa cousine n'était pas réellement plus sage qu'il ne fallait. Voici le fait à ce qu'il me semble. Mrs. Fitzpatrick avait sagement observé que la vertu d'une jeune femme dans le monde est dans la même situation qu'un pauvre lièvre qui, toutes les fois qu'il se hasarde dans la plaine, est sûr de rencontrer des ennemis. Elle ne se fut donc pas plutôt déterminée à saisir la première occasion de se dérober à son mari qu'elle prit le parti de se mettre sous la protection d'un autre. Et qui pouvait-elle choisir aussi convenablement pour son protecteur qu'un homme de qualité, fort riche, rempli d'honneur, et qui, indépendamment de cette disposition courageuse qui porte les hommes à la chevalerie errante, c'est-à-dire à se déclarer les champions de la beauté malheureuse, avait souvent témoigné le plus vif attachement pour elle, et lui en avait déjà donné toutes les preuves qui étaient en son pouvoir. Mais comme la loi a imprudemment omis de créer cet emploi de vice-mari, ou gardien d'une femme échappée à son mari, et comme la malveillance est toujours disposée à donner une dénomination plus défavorable à celui qui se charge de remplir cette fonction volontairement, il fut convenu que Milord rendrait toutes sortes de bons offices à la dame, mais en secret et sans se charger publiquement du rôle de son protecteur. Il fut arrêté en outre que pour ôter tout soupçon, elle se rendrait sur le champ à Bath et que Milord irait d'abord à Londres, d'où il repartirait pour aller la rejoindre par ordonnance du médecin. Sophie fut bientôt instruite de tout cet arrangement, non que Mrs. Fitzpatrick le lui eût dit ou le lui eût fait connaître par sa conduite, mais par Milord, infiniment moins expert que la bonne dame à garder un secret. Et peut-être le secret exact que Mrs. Fitzpatrick avait gardé sur ce sujet dans son récit ne servit-il pas peu à fortifier les soupçons qui venaient de s'élever dans l'esprit de sa cousine. Sophie trouva très aisément la dame qu'elle cherchait, car il n'y avait pas dans toute la ville un porteur de chaise à qui sa maison ne fût parfaitement bien connue. Ayant reçu en réponse à son premier message la plus pressante invitation, elle se hâta de l'accepter. Il faut avouer que Mrs. Fitzpatrick ne poussa pas plus loin que la civilité ne l'exigeait les instances qu'elle fit à sa cousine pour la retenir. Soit qu'elle se doutât du soupçon dont nous venons de parler et qu'elle lui en sût mauvais gré, soit par tout autre motif, il est certain qu'elle avait autant de désir de se séparer d'avec Sophie que Sophie elle-même pouvait en avoir de la quitter. Notre héroïne, au moment où elle vint prendre congé de sa cousine, ne put s'empêcher de lui donner un petit conseil. Elle la conjura, au nom du ciel, de prendre garde à elle et de considérer dans quelle situation délicate elle était, espérant, ajouta-t-elle, qu'on pourrait trouver quelque moyen de la réconcilier avec son mari. « Vous devez vous rappeler, ma chère, lui dit-elle, la maxime que ma tante Weston nous a si souvent répétée. Que toutes les fois que l'union conjugale est troublée et la guerre déclarée entre le mari et la femme, il y a toujours de l'avantage à celle-ci à faire la paix, quelques conditions qui lui soient imposées. Ce sont les propres mots de ma tante, et vous savez qu'elle a beaucoup d'expérience du monde. » Mrs. Fitzpatrick lui répondit avec un sourire de mépris, « Ne craignez rien, mon enfant, et prenez garde à vous-même, car vous êtes plus jeune que moi. J'irai vous voir dans quelques jours. Mais, ma chère Sophie, permettez-moi de vous donner à mon tour un petit conseil. Gardez votre rôle de sérieuse pour la campagne. Croyez-moi, vous auriez extrêmement mauvaise grâce à le jouer en cette ville. » Ainsi se séparèrent les deux cousines, et Sophie se rendit sur le champ chez Lady Bellaston, où elle reçut l'accueil le plus tendre et le plus poli. Cette dame avait pris beaucoup d'inclination pour elle lorsqu'elle l'avait vue chez sa tante Weston. Elle éprouva réellement la joie la plus vive à la revoir, et ne fut pas plutôt instruite des raisons qui l'avaient engagée à quitter son père et à s'enfuir à Londres, qu'elle applaudit hautement à son bon sens et à son courage. après avoir beaucoup remercié Sophie de la bonne opinion qu'elle avait conçue d'elle, et dont elle lui donnait des preuves en choisissant sa maison pour asile, elle lui promit toute la protection qui dépendait d'elle. Maintenant que nous avons remis Sophie en main sûre, je suppose que le lecteur nous permettra de l'y laisser en dépôt pour quelque temps, et de jeter un regard sur les autres personnages, notamment sur le pauvre Jones, que nous avons laissé assez longtemps faire pénitence de ses fautes passées, qui, comme cela est dans la nature du vice, était elle-même une suffisante punition pour lui.